Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 35. Genèse, chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Amen. J'aimerais que nous fassions une autre courte lecture, cette fois dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Revenant à ce chapitre 35 que nous venons de lire dans le livre de la Genèse, je voudrais vous dire que ce passage, eh bien, nous donne le but que le Seigneur s'était assigné pour Jacob. C'était dans cet endroit, et particulièrement vers ce but, que Dieu conduisait Jacob pour qu'il puisse arriver à comprendre tout le privilège qui était le sien dans la personne du Seigneur. Nous savons les uns et les autres quelle est un peu l'histoire de cet homme, et nous nous rappelons ensemble aussi quelle est la signification de son nom. Jacob, c'est trompeur. C'est l'homme rusé, mais c'est quand même un homme qui avait la foi dans la fidélité de Dieu, la foi aussi dans la grâce de Dieu, ce qui explique que dès le commencement, par rapport d'ailleurs à son frère, et parce qu'il était l'élu de Dieu, eh bien il avait un attachement particulier à ce que la Bible appelle le droit d'aînesse. Ce n'est pas lui qui devait en user, c'est son frère Ésaü, mais il se trouve que son frère Ésaü, lui, n'avait que du mépris pour cela. Et la parole de Dieu déclare qu'il était un profane qui a préféré les choses passagères, les choses matérielles, aux valeurs spirituelles. Le droit d'aînesse était une chose très importante pour un enfant d'Israël, parce que cela voulait dire qu'il allait se retrouver dans la lignée de ceux qui ont donné naissance plus tard à Jésus, le Fils de Dieu, le Fils aussi de David, et celui qui est devenu notre Sauveur et notre Rédempteur. Mais Jacob a usé, comme nous le savons tous, d'un certain subterfuge pour pouvoir s'emparer de ce droit d'aînesse, ce qui a eu pour conséquence de mettre une haine incontrôlable dans le cœur de son frère, qui à partir de ce moment-là l'a poursuivi avec acharnement. Et il a dû donc quitter le lieu où il était né, il a quitté le lieu où se trouvait sa famille et il a dû fuir jusqu'à Padan Aram, dans un endroit qui était inconnu de lui, mais où se trouvait quand même encore un membre de sa famille, et en particulier son oncle Laban, qui était également un homme particulièrement mauvais, qui vivait dans la ruse, lui aussi, qui vivait aussi dans la tromperie, mais qui a accueilli Jacob. Et je dirais que Jacob, eh bien, est allé dans cet endroit-là pour rencontrer, comme tout à nouveau, au travers d'une autre personne, eh bien, des attitudes qui étaient néfastes. Et finalement, il a payé un peu le prix de ce que lui-même avait réalisé, lui-même avait accompli. Cependant, ce qui est précieux dans la parole de Dieu, c'est de voir que malgré ce qu'était Jacob, Dieu l'aimait. La grâce de Dieu était son partage. La grâce de Dieu ne l'a jamais abandonné. Et même lorsque il a pris la route pour fuir loin de son frère Ésaü, nous le savons tous, il s'est trouvé à cet endroit où Dieu s'est révélé à lui et au travers d'un songe, il lui a permis de voir une échelle qui reliait le ciel à la terre et il a vu les anges de Dieu monter et descendre sur cette échelle-là, ce qui lui a permis de dire le matin que cet endroit est redoutable. Dieu était là et moi, je ne le savais pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a donné à cette ville, qui au départ s'appelait Luz, le nom de Bethel. Cependant, il n'était pas fait pour rester là. Il a dû continuer son voyage jusqu'à Padan Aram. Et il est solennel de penser que malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, toutes les tromperies qui étaient son partage, même toutes les ruses qu'il a continué à faire lorsqu'il était auprès de son oncle Laban, pour développer, je dirais, tout ce qu'il possédait pour agrandir son bien-être, eh bien, Dieu n'a cessé de le garder, de le bénir, de lui accorder son amour et sa grâce. Cependant, il ne pouvait pas rester là continuellement, et à un moment donné, Dieu lui a dit, il faut que tu repartes, et il faut que tu retournes au pays que tu as quitté, au pays de tes parents, au pays de ta naissance. Et Jacob a obéi à l'Éternel, il a repris en sens inverse le voyage pour retourner dans le lieu qu'il avait quitté au préalable, et en chemin, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Sichem. Et là, dans cet endroit-là, il a connu certaines mésaventures, mais il a quand même offert à l'Éternel justement son adoration et il a construit un autel. Je voudrais vous dire que le temps que Jacob a passé loin de sa maison, eh bien, était de 20 ans. Et pendant 20 ans, il n'y a pas eu un seul autel qui a été dressé. C'est-à-dire qu'il avait perdu, malgré que Dieu lui-même ne l'a jamais oublié, a manifesté sa grâce, lui a accordé sa bénédiction, lui n'avait plus la possibilité, là où il était, à Padan Aram, d'offrir à Dieu un sacrifice, quel qu'il soit. Il avait perdu sa mission d'être un adorateur. Heureusement, à la fin de sa vie, nous le verrons dans un instant, eh bien, il a terminé en s'appuyant sur le bout de son bâton de pèlerin, et la Bible dit qu'il adorait Dieu. Mais pendant 20 ans, eh bien, il a perdu cette possibilité d'adorer Dieu et pas un seul autel n'avait été élevé. Mais quand il reprend le voyage de retour, arrivant à Sichem, là, il commence à élever un autel Et il a appelé cet autel El Eloé Israël, ce qui veut dire le Dieu d'Israël. Seulement, veuillez noter, s'il vous plaît, frères et sœurs, ceci. Cet autel-là met en évidence encore une fois que lui était à la première place. C'était un autel élevé en l'honneur de l'Éternel, mais il dit c'est le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que, encore une fois, tout semble tourner autour de sa personne. Je vais m'arrêter juste ici un instant. Avant que nous connaissions le Seigneur, vous et moi, eh bien, nous vivions pour nous-mêmes. Et nous étions le centre de tout. Puis nous avons connu le Seigneur et nous avons expérimenté le salut. Nous savons ce que c'est que de connaître la grâce de Dieu qui nous apporte l'assurance du salut de notre âme et nous avons le don de la vie éternelle. Ça, c'est un grand privilège. Mais remarquez encore une chose. Malgré que nous avons reçu beaucoup de la part du Seigneur et que nous sommes les bénéficiaires de sa grâce, eh bien, nous continuons encore à utiliser Dieu pour nous. Nous restons souvent au centre et ce que nous voulons, c'est que Dieu nous accorde sa bénédiction, que nous soyons encore l'objet de son amour, qu'il nous comble de toutes sortes de bénédictions. C'est une bonne chose, bien sûr, mais vous remarquez simplement, nous restons au centre. C'est nous qui avons la première place. Alors, Dieu a permis à Jacob d'aller un peu plus loin et d'arriver jusqu'à Bethel, où il a demeuré, et il est dit qu'il a dressé un autel au Dieu qui lui avait apparu déjà précédemment dans ce même endroit, lorsqu'il fuyait Ésaü. Et là, il a dressé cet autel, et il l'a appelé El Bethel, c'est-à-dire Dieu, le Dieu de la maison de Dieu. C'est-à-dire, la maison de Dieu, là maintenant, a une grande place, une grande importance. Et j'aimerais justement attirer votre attention sur ce point. Voyez-vous, dans les Épîtres, eh bien, nous voyons, notamment dans celle que Paul a adressée à Timothée, cet enseignement. Il lui dit d'ailleurs ceci, « Je t'écris pour que tu puisses agir » et il dit « pour que tu enseignes aussi comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. » Il y a ce que nous recevons de Dieu et qu'il nous place au centre. Et puis, il y a cette autre vision, quand nous voyons la maison de Dieu et ce qui doit être fait dans la maison de Dieu et le comportement que nous devons avoir dans la maison de Dieu. Et là, ce n'est plus nous qui sommes au centre, mais c'est Dieu qui est au centre. Or, quel est le comportement qui doit être notre partage dans la maison de Dieu ? Quand on lit cet épître de Paul adressé à Timothée, nous voyons que les hommes sont appelés à élever des mains pures, à adorer Dieu, à prier Dieu, à passer du temps dans la prière. Et puis il est dit, les femmes doivent être modestes, elles aussi, elles doivent servir Dieu, mais avec modestie. Et puis ensuite, il est question de toutes sortes de choses qui doivent être faites dans la maison de Dieu, du comportement, de l'attitude que l'on doit avoir dans la maison de Dieu, toujours pour que Dieu soit honoré et pour que Dieu soit glorifié. Or, remarquez une chose, Dieu a amené précisément Jacob à Bethel pour lui permettre de faire une expérience plus grande cette fois avec lui. La première expérience qu'il avait faite avec Dieu, même quand au chapitre 32 du livre de la Genèse, il est dit que Dieu l'a rencontré et puis l'a vraiment humilié dans le sens qu'il l'a frappé à l'emboîture de la hanche et puis qu'il l'a rendu dépendant de lui. Voyez-vous, à ce moment-là, Dieu l'a béni et il lui a rappelé le nom nouveau qu'il lui donne, comme s'il voulait dire à Jacob, déjà une première fois, je t'avais dit, tu es Jacob et désormais tu seras Israël, mais pendant tout ce temps, tu as davantage vécu en tant que Jacob plutôt qu'en tant qu'Israël, prince de Dieu. Et là, eh bien, il est obligé de constater qu'effectivement, malgré que son nom ait été changé, sa vie, son cœur n'avait pas été changé. Tandis que là, l'amenant à Bethel, il lui demande de faire quelque chose. Et Jacob va obéir. Il va d'abord parler à tous les membres de sa famille. Il va parler à sa propre maison. Et il va dire, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est une chose importante qui est mise en relief là. Car nous avons lu un texte parallèle dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui s'adresse à l'Église. Il ne s'adresse pas à des inconvertis. Il ne s'adresse pas à des gens qui sont du dehors. Il s'adresse à une église et il dit, vous ne devez plus marcher comme des païens. Et il met en relief toutes les choses qu'ils doivent abandonner. Et il dit, si vous êtes en Christ, vous avez appris à vous dépouiller eu égard à votre vieil homme, à votre ancienne nature, vous avez appris cela, et maintenant, revêtez-vous, eh bien, de Christ, revêtez-vous de la nature nouvelle. Remarquez, frères et sœurs, c'est exactement ce que Jacob est en train de dire à tous les membres de sa famille. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour que dans la maison de Jacob, il y ait des dieux étrangers, lui qui a fait l'objet de la grâce du Seigneur? Eh bien, je vous l'ai dit, à Padan Aram, il n'était pas un adorateur. Et chez son oncle, il y avait de l'idolâtrie. La Bible nous dit que chez Laban, il y avait des choses qui ne glorifiait pas Dieu, il y avait des téraphimes. Et la femme de Jacob, Rachel elle-même, elle avait dérobé les téraphimes. Vous savez cela parce que vous l'avez lu dans l'Écriture. Et finalement, elle les avait cachés avec elle dans sa maison. Ça veut dire que la maison de Jacob, eh bien, était une maison qui abritait des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Peut-être que pendant un temps, lui l'ignorait, ou peut-être il couvrait cela, mais en tous les cas, à un moment donné, il a eu la révélation qu'il ne pouvait pas continuer à agir de cette manière-là. Et à Bethel, au moment de partir, eh bien, là, les choses ont été mises en ordre. Et c'est d'ailleurs dans le lieu précédent, à Sichem, que là il a pris une décision ferme en disant « Il faut se séparer de tout cela, il faut mettre de côté tout cela et ne plus jamais utiliser cela. » C'est curieux, c'est dans ce même endroit qu'un jour un homme qui s'appelle Josué a pris une décision très ferme, très importante. Il s'est adressé au peuple et il a dit, servez qui vous voulez, en tous les cas, choisissez. En ce qui me concerne, moi j'ai choisi de servir Dieu. Et il a dit, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Il avait pris une décision ferme. Mes frères et sœurs, réfléchissons un instant à cela. Beaucoup de chrétiens on fait une certaine expérience avec le Seigneur qui est véritable. On ne va pas mettre en doute l'expérience de base qui a été faite avec le Seigneur, que l'on appelle la conversion. Certainement que le Seigneur s'est révélé à beaucoup de cœurs. Certainement que le Seigneur a fait connaître sa grâce. Certainement que le Seigneur a communiqué son amour. Certainement que le Seigneur a permis à certains d'ouvrir leurs yeux sur leur propre nature. Et ils ont commencé à marcher avec le Seigneur, mais au fil du temps, au fur et à mesure qu'ils ont avancé avec le Seigneur, il y a eu un tas de choses qui se sont greffées, qui se sont ajoutées, qui, elles, étaient négatives. Et l'on trouve alors quoi? Des chrétiens, en tous les cas, le titre n'a pas changé, ils sont effectivement enfants de Dieu, mais tout en étant enfants de Dieu, ils ont accepté, toléré dans leur vie un tas de choses qui n'ont plus aucun rapport avec la gloire de Dieu et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, ne soyons pas choqués de cela. Quand Paul parle à l'Église, il dit « renoncez aux mensonges ». Encore une fois, je le répète, il n'est pas en train de parler à des inconvertis, il parle à l'Église. Il dit que celui qui volait ne dérobe plus. Il parle de choses ignominieuses, de calomnies. Il parle d'esprits impurs. Voyez-vous, mes frères et sœurs, quand la Bible condamne l'adultère, bien souvent, nous pensons qu'il s'agit d'un acte odieux. Mais le Seigneur nous met en face d'une certaine réalité. Et il dit, la loi dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi, je vous dis que si vous portez un regard convoitant une femme qui n'est pas la vôtre, vous avez déjà commis adultère dans votre cœur. Et il parle, tu ne tueras point. Il dit, ça c'est la loi. Mais moi je vous dis que si dans votre cœur il y a de la haine, eh bien vous êtes déjà un meurtrier. Et on file et à mesure que l'on avance comme ça, on s'aperçoit qu'il y a un tas de choses qui peuvent se trouver dans notre cœur, qui peuvent se trouver dans notre vie, que nous avons accumulées, que nous avons, dans le fond, accepté, que nous avons toléré, qui sont là, et puis qui pèsent sur notre conscience. Mais nous arrivons quand même au culte, et bien nous arrivons avec tout cela, et puis nous pouvons très bien dissimuler. Mais vous savez, mes frères et sœurs, le Seigneur ne nous condamne pas, mais il veut nous amener à ce que nous puissions prendre une décision ferme, irrévocable, pour que nous puissions dire, Seigneur, sonde-nous par ton esprit, purifie-nous, sanctifie-nous. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il fait un travail qui est vraiment profond. Remarquez, Jacob, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait reçu un nom nouveau, mais sa vie ne correspondait pas au nom nouveau qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Tandis que là, eh bien, on voit qu'il entre réellement dans la possession de ce que Dieu voulait pour lui d'une manière continuelle, permanente. Il devient quelqu'un qui maintenant va dans la direction que Dieu lui-même a établi. D'ailleurs, le verset 16, comme le verset 21, nous dit, ils partirent de Bethel. Et au verset 21, il est dit, Israël partit, et il dressa sa tente au-delà, justement, de Bethel et au-delà de Migdal-Éder. Ça veut dire qu'il va progresser dans la direction qui a été fixée par Dieu lui-même. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais aussi m'attarder maintenant sur une autre vision des choses. Vous voyez, quand Jacob est parti loin de sa maison et est arrivé dans la maison de Laban, là, il y a eu certains problèmes qui ont éclaté. Vous connaissez, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, comment son oncle a abusé de lui. Il y avait dans le cœur de Jacob un certain amour pour une des filles de Laban, et cette fille qu'il aimait s'appelait Rachel. Et quand il en a fait part, justement, à son oncle lui a dit, d'accord, il faudra que tu travailles 7 ans pour que tu puisses avoir Rachel comme épouse. Rachel, c'est celle qu'il aimait de tout son cœur. Mais son oncle l'a trompée, comme vous le savez, et au bout de 7 ans, eh bien, au lieu d'avoir Rachel, son oncle, par un subterfuge, eh bien, lui a donné Léa, c'est celle qu'il aimait moins. Et quand, bien sûr, il s'est rendu compte de cela, il n'était pas très content, et son oncle lui a demandé de travailler 7 ans de plus pour avoir Rachel. Il y a eu donc là ces deux femmes. Remarquez ceci, Rachel, c'est celle qu'il aimait en premier, et puis c'est Léa qu'il a épousée pourtant en premier. Jacob est un type même de la personne du Seigneur et également un type, je dirais, de l'histoire d'Israël. Et nous savons que le regard du Seigneur s'est d'abord posé sur Israël. Et Israël, justement, n'a pas compris le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que ce soit Israël qui passe en premier, c'est l'Église qui est passée en premier. Et je dis cela pourquoi? Parce que Léa, qui représente donc l'Église qui est passée en premier et qui a reçu de grandes bénédictions de la part de Dieu, Léa a porté à son époux, a donné plutôt à son époux, beaucoup d'enfants. Il y a 6 enfants qui sont nés, puis la signification de ces 6 enfants correspond à ce que l'Église elle-même, eh bien, peut connaître dans sa marche et dans sa communion avec Dieu. Le premier enfant que Léa a donné à Jacob s'appelle Ruben. Ça veut dire, voyez un fils, parce que elle a été tellement heureuse de pouvoir donner ainsi un fils à Jacob qu'elle a dit, voyez un fils. C'était une révélation. Un fils nous a été donné en la personne de Jésus. À Noël, on dit toujours, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est le Fils de Dieu dont nous avons eu la révélation qui est devenu notre Sauveur. Le deuxième enfant, c'est Siméon, a été entendu. Vous voyez, la première fois, Léa a dit, l'Éternel a vu. Elle a vu quoi? L'Éternel a vu que je n'étais pas aimé, moi, puisque Jacob aimait davantage Rachel. Et il m'a donné, justement, Ruben. Maintenant, l'Éternel a entendu et il m'a donné Siméon. Et vous voyez, dans la relation avec Dieu, nous savons que nous sommes toujours entendus de la part de Dieu. L'Église a ce privilège d'avoir la révélation de Christ, la révélation que Dieu entend nos prières. Dieu a donné un troisième fils qui s'appelle Lévi, joint, c'est-à-dire l'unité que nous avons dans un seul esprit, lié ensemble dans l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et puis il a donné encore un autre enfant, Judas, ce qui veut dire « Dieu soit loué ». Et l'Église est appelée à faire quoi? À louer le Seigneur. J'ai remarqué ce matin, l'accent qui a été mis particulièrement au travers des chants et l'insistance. Et c'est dommage parfois que nous ne soyons pas suffisamment sensibles à cela, parce que le privilège de l'Église, c'est de louer Dieu. De le louer, pourquoi ? À cause de tout ce qu'il a fait pour nous, du prix qu'il a payé, d'avoir après cette révélation de cet amour, la possibilité d'ouvrir notre bouche pour louer le Seigneur comme il est digne de l'être. Dans le fond, ça devrait être naturel que l'Église s'élève dans la louange et proclame le merveilleux amour de Dieu. Mais il n'y a pas que Judas, il y a eu aussi Issachar. Et Issachar, vous savez, c'est le résultat de quelque chose qui s'est particulier. Je vais juste, en passant, vous dire cela. Rachel, un jour, a fait un partage. Le fils de Rachel est venu, de Léa est venu, et il avait ramassé des mandragores dans le champ. Et quand Rachel a vu cela, elle a voulu avoir ces mandragores. Et elle a dit, donne-moi ces mandragores. Et Léa a dit, c'est pas suffisant, que tu aies pris mon mari, qu'encore maintenant tu veuilles prendre les mandragores. Et Léa a donc été un peu vexée de cela. Et Rachel a dit, écoute, donne-moi les mandragores. Et cette nuit, eh bien, tu iras vers Jacob. Et c'est ainsi que, finalement, elle a renoncé au mandragore par amour, je dirais, pour Jacob. Et la récompense de ce qu'elle a offert, eh bien, c'était Issachar. Récompense. Ce qui nous fait penser que, quoi que nous fassions pour le Seigneur, ne manquera jamais d'avoir une récompense. Ça, c'est aussi le privilège de l'Église. Puis finalement, le dernier enfant qui est venu pour Léa, c'est Zabulon, qui veut dire habitation. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. C'est la raison pour laquelle toutes ces choses nous parlent. Et nous devons, à cause de ça, veillez à ce que dans notre vie, rien ne soit un obstacle ou s'interpose entre lui et nous. Et quand nous prenons conscience de cela et que nous, chaque jour, nous tenons devant le Seigneur pour lui demander de sanctifier, de purifier, d'enlever de nos vies tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, toute forme de manifestation venant ou de la chair ou de la puissance de l'ennemi, à partir de ce moment-là, nous sommes agréables à Dieu. Et Dieu peut nous conduire sur une voie qui est la voie de la bénédiction, comme ça a été le partage pour Jacob. Mais enfin, ensuite, il y a eu quand même pour Rachel, parce que Dieu s'est souvenu d'elle, le privilège de donner naissance aussi à un enfant. Et regardez, c'est Joseph. C'est la raison pour laquelle je vous disais, vous voyez cette femme Rachel, eh bien, c'est celle qui a été aimée la première, elle est passée en second, mais comme Israël, il y a aussi une bénédiction qui attend ce peuple, mais en attendant, c'est quand même lui qui a donné le sauveur au monde. Or, Rachel a donné naissance à Joseph. Celui qui est un type de Christ, savez-vous pourquoi ? Parce que il était le bien-aimé du Père, mais il a été rejeté de ses frères. Exactement comme le Seigneur Jésus, qui est le bien-aimé du Père, mais que les frères, ses frères, dans la chair, n'ont pas accepté, ont rejeté. Mais une chose est certaine, voyez-vous, en Jésus-Christ, vous et moi, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et il a le pouvoir, maintenant, de changer pour nous tout ce qui nous paraît négatif en bénédiction. C'est la raison pour laquelle Je rappelle encore ce merveilleux verset de l'Écriture, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Or, nous en arrivons à ce passage où il est dit que lorsque Jacob partit avec sa famille, après avoir purifié la maison, après avoir nettoyé la maison de tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu, ils partirent donc de Bethel et ils arrivèrent à une certaine distance jusqu'à Éphrata. Éphrata, Bethléem, lieu de naissance de Jésus. La relation, de nouveau, avec le Fils de Dieu, avec le Seigneur. Mais là, eh bien, nous voyons ce qui se passe. Cette femme qui va donner naissance, justement, à un fils, c'était un autre personnage qui allait venir au monde. Elle voyait les choses d'une manière négative, et d'ailleurs, la nourrice lui a conseillé de se réjouir et lui a dit « Ne crains point, car tu as encore un fils ». Mais comme elle allait rendre l'âme, eh bien, elle lui donna le nom de Benoni, ce qui veut dire « fils de ma douleur ». Mais le père, Jacob, dans la plénitude de la foi, a dit « On l'appellera Benjamin, fils de ma droite ». Voyez, quand on regarde les choses du côté de la chair, alors tout peut se présenter en nous comme étant la douleur, le résultat négatif. Mais Dieu change le mal en bien. Il a toujours le pouvoir de le faire. Et finalement, même ce qui s'est passé pour le Seigneur, eh bien, quand les hommes l'ont rejeté, quand les hommes l'ont conduit à la croix, eh bien, ça a été une source de bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu notre Sauveur et notre Rédempteur. Le plan de Dieu, personne ne peut l'annuler. Personne ne peut l'annihiler. Ce que Dieu établit, il l'accomplit, il le fait jusqu'au bout. Il est fidèle. Et l'œuvre que Dieu a commencé en nous, il la rendra parfaite, parce que ce Dieu qui est fidèle, eh bien, ne manquera pas aussi d'accomplir pour nous, au travers de sa grâce ineffable, ce qu'il a établi comme plan. Et je voudrais vous dire que le but qu'il s'est assigné pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons rendus semblables à son Fils bien-aimé. Là, j'ai dit au commencement de ce message que Dieu, dans ce chapitre, nous montre qu'il a atteint le but pour Jacob. Il a amené là où il voulait, afin que Dieu soit tout pour lui, et il a terminé en adorateur, par opposition à son frère, qui en ayant méprisé le droit d'aînesse est devenu un profane. Et la Bible nous dit que Édom, ce qui est, disons, la famille d'Ésaü, a été complètement anéanti, complètement détruit. Si nous vivons par la chair, nous hériterons de la chair la corruption. Si nous vivons par l'esprit, eh bien, c'est la vie éternelle que nous hériterons. Et ça, c'est l'espérance que possède tout véritable enfant de Dieu. C'est là que nous devons dresser notre tente pour être des adorateurs, en réalisant que Dieu est fidèle et qu'il fera pour nous, même au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Alors il ne faut pas trembler devant certaines situations, il ne faut pas trembler devant certaines circonstances. Dieu est celui qui change le mal en bien. Que Dieu vous encourage et que Dieu vous bénisse. Amen.